Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Aujourd'hui, on va parler de deux grosses rencontres, Monaco-Marseille qui aura lieu samedi soir et Rennes-Nantes qui aura lieu dimanche soir. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je vais avoir Steve et Maxime. Comment tu vas, Steve ?
Salut Testy, salut Max, salut à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast et pour parler de notre bonne vieille Ligue 1.
Ça va, tu t'es remis de la défaite ?
On vient de commencer, on va pas s'énerver.
Tu reviens de vacances.
Il y a suffisamment de sel qui va arriver sur le match d'après. Donc, on va garder ça pour après.
Nickel. Salut à toi Max, tu vas bien ?
Salut à toi Desti, salut à tous, j'espère que vous allez bien.
Alors, du coup, on va commencer cet épisode avec un gros match, mine de rien. Hein, ça reste, on est toujours dans le Sud-Est. Hein, la semaine dernière, on avait parlé de Monaco-Nice. Là, c'est Monaco-Marseille. Monaco qui enchaîne, qui a quand même un assez gros calendrier. Et Monaco qui a perdu la semaine dernière contre Nice, 1-0. 1-0 avec notamment deux pénaltys loupés de Balogun. Et Marseille qui a eu cette défaite contre le PSG, 4-0. Petit match. On va commencer d'abord par Marseille. Marseille vient d'avoir un nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso. Donc rapidement, Gattuso a fini sa carrière à Sion. Il a été entraîneur-joueur. Il a ballotté dans quelques clubs. Là où il a vraiment eu de l'effet, c'était au Milan, qu'il a réussi à mettre sur le devant de la scène, notamment à les faire jouer en Europe. Ensuite, il enchaîne avec Naples, où ça se passe beaucoup moins bien. Valence, je crois qu'il fait à peine 9 matchs, quelque chose comme ça. Et là, welcome to Marseille. Steve, je vais te lancer. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce Gattuso et de ce choix de l'OM ? Est-ce que tu penses que l'alchimie va fonctionner entre les deux ?
Alors, ça va être un choix à double tranchant. C'est soit ça marche et Longoria redevient le président. Ouais, voilà, c'est génial, Don Pablo, ce qu'il fait, etc. Ou alors, ça sera le pire choix possible. Parce que Gattuso a ce caractère très trempé, on le sait. Il y a eu dans sa carrière de joueur, comme dans sa carrière d'entraîneur, il y a eu des déclarations, il y a eu des fracas assez récurrents. Avec les supporters, je me fais pas trop de soucis parce que c'est le genre de caractère, le genre de personnage qui plaît à Marseille. Mais j'ai un peu peur avec les joueurs, avec certains cadres qui n'ont pas l'habitude d'être bousculés. Je pense que là, au top of my head, comme ça, je dirais Rongier, par exemple, qui dernièrement est un peu en deçà de ses performances et qui a quand même ce statut de cadre dans l'équipe. Est-ce qu'un joueur comme ça va accepter de se faire mettre sur le banc ou accepter de se faire un peu bousculer par le coach ? Je ne sais pas, à voir. Je suis assez excité par ce choix. C'était un choix ambitieux qu'a fait Longoria, parce que c'est vrai qu'il ne reste pas sur des expériences très très prestigieuse. À Valence, pardon, de mémoire, c'est une vingtaine de matchs à peu près.
Ouais, même
25
pas,
matchs
je crois.
À peu près. Ouais, attends, j'ai le chiffre sous les yeux. Ouais, c'est à peu près 25 matchs, une dizaine de défaites, 7 victoires, 5 nuls. Voilà. Ça s'est un peu mal fini, disons. Comme tu l'as répété au Napoli, bon, c'était un peu mi-figue, mi-raisin. Donc, on verra bien ce qu'il va proposer à Marseille, mais ça va ajouter un peu de piquant dans la fin de saison marseillaise.
Ok. On l'a vu c'était Abbandonado pardon qui coachait l'OM ces deux dernières rencontres. Donc ils ont joué en 4-3-3 face à l'Ajax. PSG, je pense que c'était un peu une disposition de circonstance où ils ont évolué à 5 derrière. À quoi on peut s'attendre en termes de composition pour ce match face à Monaco ? Le truc qui pêchait à l'OM, c'était ça manquait de jeu. C'est quand même une équipe qui marque assez peu malgré les attaquants qu'elle peut avoir, tels que des Aubameyang, des Vitinha, des Sarr. Enfin, on sent qu'ils ont une arme offensive quand même qui est assez intéressante, mais au final, ils ont mis que 7 buts cette saison en Ligue 1. Toi, en termes de composition, comment tu vois les choses, Maxime, pour Marseille pour le match de samedi?
Je pense que c'est vrai qu'ils ont l'habitude du 4-3-3. Ils ont un effectif qui est adapté, je trouve, au 4-3-3. Après, les effectifs et les dispositions, ça change vraiment en fonction des coachs. Il y a des coachs, je pense en tête, j'ai Christian Gourcuff qui était attaché à son 4-4-2. Peu importe l'effectif qu'il avait, c'était un 4-4-2 qu'il voulait mettre en place. Mmh. Il faut voir par rapport à Gattuso si lui a son dispositif précis et qu'il ne veut pas bouger. Ou alors, est-ce qu'il va s'adapter un petit peu à l'effectif, aux capacités et vraiment à tout ce qu'il peut mettre en avant. Moi, je trouve que le 4-3-3 est plutôt intéressant par rapport vraiment aux joueurs d'aile qu'il peut y avoir sur le côté. Une défense à 4, histoire d'avoir aussi un peu de sérénité et pouvoir aussi aller de l'avant. Parce que, comme tu l'as dit, Marseille ne marque pas beaucoup. Mais pourtant, Marseille a des joueurs offensifs. Et donc, c'est vrai que peut-être qu'il va y avoir un peu de turnover pour donner la chance à des joueurs qui n'ont pas forcément eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison et essayer de remettre certains en confiance.
Ok.
Mais la défense à 5, c'était un choix imposé par le DS, en fait. C'est pas Bardonado qui avait décidé ça, c'est ce qui est sorti dans la presse quelques jours après le match. C'est que c'est Frio, donc le directeur sportif, pardon, qui aurait imposé ce choix, entre guillemets, de jouer à 5 derrière contre Paris, pour essayer de verrouiller un peu la boutique et pas se prendre une claque. Bon, ça a quand même pris une claque. Et Abardonado, lui, voulait jouer avec son 4-3-3, en fait, comme contre l'Ajax. Et si c'est lui sur le banc samedi, ce qui devrait être le cas, il a déjà annoncé que ça serait un retour au 4-3-3 et un jeu plus offensif, comme on a pu le voir contre l'Ajax.
Plus offensif, ça veut dire exit Veretout ou Rongier du milieu de terrain pour mettre, alors, je sais pas, peut-être un Unai ou quelque chose comme ça, ou un Pagilavogui, non, je crois qu'il est blessé au milieu de terrain.
Kongambia?
Ouais, Kongambia.
Il est encore blessé, ouais.
Il est blessé encore.
La défense à 3, c'est intéressant quand on sait qu'on a Klaus et Lodi sur les côtés, parce que c'est vrai que ça a apporté de la profondeur. Mais je trouve que c'est se priver, en fait, d'Arit et de Sarr qui peuvent apporter énormément offensivement. Parce que jouer à deux avec Aubameyang et Vitinha, je pense que jouer avec une pointe et à la limite s'il y en a un des deux qui n'est pas bon, le remplacer ça peut être intéressant pour apporter vraiment du poids offensif avec vraiment deux flèches et une pointe et faire un remplacement si jamais il y a besoin. Parce que c'est vrai que d'avoir du 3-5-2, ça apporte de la densité au milieu, oui, mais pas forcément des offensives percutantes. Alors que d'avoir du 4-3-3, ça peut être intéressant pour Marseille.
Parce que au final, Monaco, c'est quand même une équipe qui se débrouille bien à domicile, donc c'est pas trop de buts. On a un Marseille qui offensivement est quand même assez faible. Est-ce que on doit s'attendre encore une fois, c'est Gattuso, on c'est nouveau, il a un nouvel effectif, il va commencer, mais est-ce que un peu comme à Lyon où on a vu qu'avec Grosso, ça a pas forcément pris au premier match et c'est normal puisqu'il y a de la construction. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose, c'est-à-dire maintenant il faut prendre le temps avec Gattuso, pas forcément lui mettre la pression, le laisser construire son truc, alors que Marseille, c'est quand même l'équipe qui joue en tout cas les premières places cette année et qui est en Europa League. Comment tu penses que ça va se passer à ce niveau-là, pour Marseille, Steve?
Je pense que le match effectif Gattuso va se faire parce qu'il y a des joueurs qui ont du caractère dans cette équipe. Ça se voit, on a des joueurs qui n'ont pas peur d'aller, on va dire, au contact, qui n'ont pas peur d'aller bousculer un peu l'adversaire. On l'a vu avec Gigot, par exemple, ce week-end encore. On a des chances à Mbemba, on a des Konak bien, on a des joueurs qui ont de l'expérience. Donc, je pense que Gattuso va apprécier cet effectif et va réussir à faire quelque chose avec cet effectif. Mais comme tu l'as dit, forcément, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre 2-3 matchs pour s'habituer. Du coup, je pense que l'OM, cette année, le podium, je ne vais pas dire qu'on peut lui dire au revoir, mais presque, quoi, déjà. Tant que la machine prenne, tant que ça prenne le mariage Gattuso-OM, va y avoir quelques matchs de plus assez stériles, assez insignifiants, on va dire. Là, on est déjà sur 6 matchs joués. On est 8e, on a 2 victoires. Et les matchs qu'il y a, c'est vraiment stérile, c'est horrible. Donc, tant que la machine prenne, que le mariage se fasse, on va avoir encore un match ou deux assez triste. Mais je me fais pas trop de soucis pour le reste. Après, hein, y a quand même des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont de la gueule, des joueurs qui ont de la poigne dans cette équipe. Donc je pense que ça va le faire.
Ok. Puis
Je
c'est
suis
vrai
pas
aussi
forcément
l'avant.
d'accord avec toi, Steve, parce que c'est vrai que tu dis le podium, c'est fini. Bah, quand tu regardes le classement, Nice est deuxième. Je prends pas Brest parce que Brest, voilà, ils sont sur une série exceptionnelle. Nice est deuxième à 3 points. Donc
C'est vrai.
oui, il y aura peut-être 2 3 matchs un peu de
Ouais,
montée en
bien sûr,
pression,
oui.
mais franchement, il y a des clubs qui vont aussi avoir des séries négatives. Donc franchement, pour moi,
La
le podium est toujours
4-5e
pour
place
Nice.
maximum. Quatrième, cinquième place maximum cette année.
Je suis pas forcément
Parce
d'accord avec.
que devant, on le voit, le PSG, ça s'est mis en route, ça y est, c'est fini, là, le PSG, on l'arrêtera plus. Tout du moins en Ligue 1, parce qu'en Coupe d'Europe, ça va être une autre affaire, comme on a l'habitude avec le PSG. Monaco, pareil, ça se met en route bien. Reims, le jeu qu'ils proposent, ça va jouer le trouble fête dans le top 5-6. Brest, on ne sait même pas comment ils sont là, eux, déjà. On se
Ouais,
pose
non,
un
mais
peu
ça,
la question.
c'est le tube de l'été, ça va vite
Ah,
se
mais c'est.
calmer en novembre.
C'était magnifique
Voilà, c'est
pour eux,
ça,
parce que
mais.
c'est vrai que les points qu'ils sont
Mais
pris en
pareil,
début
c'est
de
ça.
saison, ils sont plus à prendre à la fin. Hein.
Ouais, c'est
Exactement,
ça.
pareil. Du coup, Brest, ça va jouer les places européennes. Enfin, entre, je vais dire, la 5e, la 9e place, entre guillemets. Donc, je pense que Marseille, si on arrive à faire top 4 cette saison, on est bien. Parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard sur la tête.
Tu vois sincèrement
Pardon?
Reims et Brest dans les cinquièmes places?
Non, non, non. Je ne dis pas qu'ils vont faire top 5. Non, je te dis qu'ils vont jouer les troubles faits pour ces places-là, en fait. Ça va
Aïe.
bien jouer. On voit que tu as des équipes qui galèrent cette année. Tu as des Lyon, tu as des Lens qui galèrent, qui, eux, bah, déjà, les places européennes, ils peuvent aussi plus ou moins oublier, je pense. Mais je pense que ouais, Brest et Reims, ça va jouer des troubles faits toute la saison.
Genre des points que tu peux aller perdre chez eux que normalement
C'est
t'aurais dû
ça,
avoir, quoi.
c'est ça.
Ok.
C'est ça. C'est
Ok,
sûr.
ok. Mais c'est vrai que pour des clubs comme Lyon ou comme Lens, je suis d'accord. Mais je vois Marseille se réveiller et finir troisième derrière Paris et derrière Monaco.
Ah, parce que au
Allez, je
final,
te suis. Allez, Max. Allez, je te suis, Max. Allez.
non mais le bilan de Marseille est pas si dégueu que ça, tu vois. C'est 2 victoires, 3 nuls et une défaite. Et la défaite, c'était contre le PSG.
Ah, mais les
Certes,
matchs sont
tu
vides.
t'as bien sûr les matchs sont vides et t'as quand même un ratio au final but pris but pour but contre pardon but pour qui est négatif, mais c'est parce que t'as eu le match du PSG. Avant ça, Marseille n'avait mine de rien pas perdu. Et puis bah du coup on va enchaîner sur leurs adversaires Monaco. Monaco qui était sur une belle série de victoires mais qui a perdu contre Nice. J'ai pas envie de dire que c'est un hold-up parce que Nice a fait son match et ils sont restés fidèles à leur philosophie, mais Monaco loupe 2 pénaltys avec Balogun. Et du coup, ce qui est intéressant pour ce match-là, c'est que Caio Henrique, je sais pas si vous avez vu, mais rupture des ligaments croisés, il me semble, il est plus là pendant quelques mois. Donc voilà, bon rétablissement. Et Golovin est suspendu. Donc c'est-à-dire qu'il faudra sans doute s'attendre à la titularisation de Jacobs et de Balogun en attaque. Ce qui est. Alors, moi, je vous avoue qu'il y a quand même quelques doutes qui se sont créés sur cette attaque, en tout cas des petits doutes. Parce que déjà, d'un, t'as Ben Yedder que tu mets sur le banc contre le match contre Nice, qui est un match important, alors que le mec est en feu. Tu mets Balogun qui loupe 2 pénaltys, donc qui est pas forcément super confiance. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette attaque de Monaco contre Marseille? Vas-y, Max, je te lance.
Bah écoute, moi j'étais au match déjà de Monaco contre Nice. On le sentait venir, c'est dommage parce que c'est vrai que tu loupes 2 pénaltys. Monaco fait un bon match. Nice reste sérieux. Mais c'est vrai que dans le stade, bah, on entendait beaucoup les Niçois déjà. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de bruit à Monaco. Mais Monaco a une belle équipe. Monaco peut jouer. L'absence de Caio Henrique va faire du mal. C'est sûr. Celle de Golovin aussi, parce que c'était deux éléments très importants. Jacobs a déjà joué, donc c'est déjà un point important. Après, moi, j'ai du mal à voir l'association Ben Yedder-Balogun, parce que c'est vrai que là, il joue dans un dispositif où c'est plutôt un 3-4-2-1. Donc, je verrais plus mettre soit un Akliouche, soit un autre milieu offensif, un Diatta. et rester avec une pointe. J'ai l'impression que Hüller aime bien jouer avec une pointe. Donc il mettra soit Balogun, soit Ben Yedder, quitte à faire rentrer l'autre si ça se passe mal. Okay. Moi, c'est comme ça que je vois.
Et tu t'attends plutôt du coup à un Balogun ou à un Ben Yedder en pointe?
Je m'attendrais plutôt à un Ben Yedder parce que je pense que malheureusement Balogun a mal vécu son match contre Nice et je suis pas sûr qu'il le fasse rejouer tout de suite titulaire. Il va essayer de lui faire comprendre. Après, je me trompe peut-être, hein, mais il va essayer de lui faire comprendre de mettre Ben Yedder histoire de commencer le match, on va dire, sereinement et lui redonner sa chance dans le match si le match tourne bien. S'il y a par exemple 2-0 pour Monaco. Faire rentrer un Balogun, histoire de le remettre en confiance pour qu'il puisse lui aussi apporter, marquer et potentiellement reprendre confiance suite à ces deux pénaltys manqués.
Ok. Et parce que c'est vrai qu'on parle quand même beaucoup de l'attaque de Monaco, mais il faut aussi parler de cette défense. Hein, cette défense qui a pour l'instant été encaissé 8 buts en Ligue 1. Hein, donc c'est Singo, Magassa, Zakaria qui ont notamment joué le dernier match. Au final, ça reste quand même plus d'un but par match qui prennent Monaco. Ça, pour une équipe qui joue quand même le haut du tableau, ça commence à faire beaucoup, surtout quand on compare. Bon, alors après, c'est dur de comparer avec, par exemple, un Stade Brestois, puisque sans doute, au bout d'un moment, ils vont craquer. Mais voilà, Monaco, ils ont pris 8 buts. Brest qui en a 6, Nice 4, PSG 6. Ils sont quand même dans la moyenne des équipes de milieu de tableau hein, qui tournent autour des 8-10. Est-ce que c'est pas aussi ça le péché de Monaco, cette défense en fait qui manque un peu de solidité malgré un con qui a fait quand même un bon début de saison? Je te lance dessus, Steve.
Ouais, c'est vrai que con travaille bien derrière et est très bon sur sa ligne. Il leur a sauvé pas mal de buts quand même. Mais c'est vrai que cette défense à 3, c'est pas la chose la plus rassurante du monde, hein. C'est pas sur ça que je poserai la maison. C'est vrai que Magassa, Zakaria, Singo, c'est assez fébrile. On sent clairement qu'il manque un leader dans cette défense. Il manque un mec qui a des couilles, qui crie, qui parle beaucoup. Et c'est vrai que prendre beaucoup de buts comme ça va leur être préjudiciable dans le futur parce que le goal average, ce genre de choses, on sait très bien que ça peut jouer beaucoup pour les places européennes. Après, contre Marseille, je pense que ça va. Les deux équipes vont un peu s'annihiler elles-mêmes. Elles vont tous les deux vouloir jouer le ballon, vouloir jouer la possession. Il va y avoir un milieu très dense des deux côtés, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, ce match va être assez stérile aussi. Je pense que ça va jouer à forces égales, mais j'ai un peu peur pour Monaco dans la profondeur, surtout avec des joueurs à l'OM comme Aubameyang, comme Ndiaye, pour ne citer que. On verra bien ce match. Après, c'est vrai que ça prend beaucoup de buts Monaco, ça gagne très peu, mais contre Nice, sans un très grand Martin Bulka. Ça finit à 2-0 hein, parce que à la fin il serait mort. Donc je pense que se baser sur le match de Nice pour juger hein, Monaco Marseille, c'est pas non plus la chose la plus simple à faire. Mais c'est assez compliqué de pronostiquer ce match parce que là on est face à deux équipes qui ont besoin de gagner, qui ont besoin de prendre des points. Et je pense que justement on va y avoir l'effet contraire qu'espérait. Ça va être un match assez stérile, je pense, des deux côtés.
Ok.
Je voudrais juste un peu sur la défense de Monaco parce que c'est vrai que c'est une défense en fait qui se connaît pas.
C'est ça.
Zingo, c'est arrivé. Magassa, il est 6 à la base, il est formé 6. Ça faut le savoir. Donc c'est vrai qu'il est un peu été mis là, un peu par hasard. Ils ont fait revenir un Christian Matsima l'hiver dernier de Lorient qu'ils ne font pas jouer. Ils ont perdu Disasi qui est parti à Chelsea. Maripane se retrouve sur le banc. Salissou est lui blessé, donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu du dépannage ce qu'ils font. Parce que, ok, il y a Zakaria qui est arrivé pour être titulaire, il y a Zingo qui est arrivé pour être titulaire, il y a Salissou qui est arrivé pour être titulaire, mais ces trois joueurs qui se connaissent pas, finalement Salissou est blessé, ils mettent Magassa qui est pas défenseur de formation alors qu'il y a Maripane et Matsima sur le banc. Ben, c'est des choix de coach, mais c'est vrai que c'est compliqué. En plus, le gardien, ben, il change par rapport à l'année dernière, donc c'est vrai que ça fait vraiment ben, 4 changements au niveau de la défense. Donc c'est compliqué à mettre en place, et il faut des matchs pour justement que cette défense soit vraiment bien en équipe.
Ok. Du coup, vos pronos pour ce match.
Steve, je partirai
sur un 1-1 avec un but de Balogun, d'un Balogun un peu revanchard. Et okay. Allez, j'irai Aubameyang.
Ok. Et toi, Max?
Et moi, je dirais 2-1 pour Monaco avec un doublé de Ben Yedder. Et un but de... Allez, Illiman Ndiaye pour Marseille.
Ah ouais, vous êtes chauffé. Mais t'as moi,
pris,
je...
T'as pris Ben Yedder sur MPG ou pas?
Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il va essayer de faire mentir étant donné qu'il a été remplaçant. Je le pense titulaire. Donc, il va essayer de montrer qui il est et pourquoi il est là.
Bah, c'est ça, Ben Yedder, c'est quand même un joueur qui a de l'orgueil, hein, parce qu'à chaque fois, les coachs avaient le tendance à le mettre sur le banc dès que ça allait pas dans l'équipe, en pensant que c'était lui le problème, et finalement, le mec revenait et marquait. Donc, moi, je te suis, je pense que Monaco va gagner, et j'ai même envie de dire, j'hésite à pas dire que ça va pas être un petit 2-0, je vois pas Marseille gagner, tu vois. Moi, je pense que la première victoire de Marseille, elle aura lieu à domicile. Ouais. Là, je pense que ouais, un petit 2-0 pour Monaco avec ouais, un petit but de Ben Yedder et si Minamino pouvait marquer, mais ça c'est personnel parce que pour le coup, lui, je l'ai sur MPG et depuis je l'ai, il marque plus. Donc,
faut être objectif, tu sais. Hein.
Donc ouais, petit 2-0, 2-0 de Monaco, moi je vais dire. Bon bah nickel, on va passer au match suivant. Du coup, Rennes-Nantes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un derby de la Bretagne, Maxime?
On n'a pas le droit de dire ça parce que Nantes est en Loire-Atlantique, mais on va dire que c'est le plus beau derby de l'Ouest. On va le dire comme ça.
Le plus beau derby de l'Ouest. Ok, nickel. Alors, le paradoxe de Rennes, quand même, c'est que Rennes, c'est une équipe invaincue, mais une équipe qui ne gagne pas. Rennes, c'est quand même une victoire et 5 matchs nuls. Pourtant, c'est une... On va pas se mentir, quand même une belle équipe qui a fait un bon recrutement, que ce soit Blas, Lefebvre. Blas le fait, non, Goury était déjà là, ils ont recruté qui d'autre, aidez-moi, Matic au milieu de terrain. Donc, c'est quand même, en son,
un... C'est arrivé, l'attaquant qui a marqué un but.
Voilà. Mais Rennes, c'est, bah, une équipe qui ne gagne pas. Ne gagne pas, mais qui est invaincue. J'ai regardé le dernier match contre Montpellier qui était, voilà, c'est passé, on va dire. C'était pas si nul que ça. Il y a eu quelques petites occasions, mais rien vraiment de concret. Donc, moi, j'ai envie de savoir aujourd'hui contre un Nantes qui a fait un gros score, qui gagne 5-3 contre Lorient le week-end dernier. À quoi doit-on s'attendre par rapport à Rennes pour ce match-ci? Puisqu'il faudrait quand même un moment qui s'enchaîne un peu, enfin, qui commence à enchaîner des victoires. Max.
Ben, tout d'abord. Moi, déjà, quand on avait parlé Mercato, j'avais dit qu'il manquait quelque chose à Rennes. C'est qu'il manque un peu le Doku qu'ils ont perdu, le Souleymana qu'ils ont lâché aussi cet hiver. C'est que ces joueurs-là n'ont pas été remplacés. Donc oui, il y a Blas qui est arrivé. Oui, il y a Lefebvre qui est arrivé. Ce sont des joueurs de ballon, mais il n'y a pas de joueurs de percussion. Les seuls joueurs de percussion qu'il y a, il n'y en a qu'un, c'est Salah. Et c'est à la limite le seul qui, pour le moment... je trouve, fait un début de saison où bah, il marque des buts. Je ne sais pas si c'est le meilleur buteur ou pas pour le moment. Mais
c'est le meilleur buteur avec 3 buts. Ouais,
ouais, voilà. Donc, alors qu'il est remplaçant, qu'il ne commence pas les matchs. Donc, moi, c'est ça qui me manque un peu à Rennes. Il y a Kalimuendo qui s'est blessé pendant quelques temps. Il est de retour à l'entraînement. On devrait revoir Martin Terrier pour ce match. Bon,
nice.
Il va sans doute être mis en jambe. Donc, il va peut-être rentrer pour 10-15 minutes. Mais c'est vrai que ils ont du mal à marquer. On a un buteur, Yildirim, qui est arrivé, mais pour être remplaçant. Donc, ça a du mal à se mettre en place. Il y a en plus un match européen la semaine prochaine. Donc, ça va pas être simple. contre Nantes, parce que Nantes, comme tu l'as dit, sort d'une grosse victoire. Et Rennes doit se racheter au vu des prestations qu'ils ont faites dernièrement. Donc, on va voir. À domicile, sur un derby, ça peut être intéressant.
Ah, parce que au final, Rennes, ça reste quand même une équipe qui a du mal à dominer complètement ses matchs, à les mener de bout en bout. Hein. Ils se sont fait reprendre à différentes reprises et ils concèdent quand même beaucoup de buts aussi, hein, puisqu'au final, on est sur 7 buts. Hein, donc, quasiment, enfin en tout cas en moyenne, on est sur un but par match. Rennes concède aussi beaucoup d'occasions. Face à un Nantes... Bah, comme on l'a dit, qui alors sert d'un très gros match avec contre Lorient, mais surtout qu'en ce moment ils ont un attaquant qui est en feu, qui est Mostefa. Est-ce que pour toi, Steve, on peut attendre le réveil des attaquants rennais? Est-ce qu'on peut voir des buts de Blas, des buts de, je sais pas qui d'autres joueurs à Rennes, mais est-ce que, parce que pour l'instant les meilleurs buteurs c'est Salah avec 3 buts, qui est un super sub. Certes, il a joué le dernier match contre Montpellier, mais voilà, il s'est pas passé grand chose, il marche pas. Enfin, il a commencé titulaire. Kalimundo blessé qui a un but. On a Bourigeaud un but. Assignon un but qui est arrière droit. Et Christophe Fou, défenseur central, a un but. Qu'est-ce que t'as, enfin, à me dire sur ces attaquants, Steve? Toi, tu t'attends, tu penses qu'ils vont se réveiller face à ce Nantes au final qui a pris 11 buts aussi cette saison, hein, pour l'instant?
En fait, déjà, le problème de Rennes, avant toute chose, je pense, c'est la composition qui n'est pas adéquate pour cette équipe. Ce 4-2-3-1 qu'on a pu un peu voir contre Montpellier, c'était soporifique. Mais quand on veut créer un peu plus de jeu, qu'on met un peu plus de créateurs, comme on l'a vu en Coupe d'Europe contre les Israéliens de Maccabi Haïfa, c'est tout de suite plus plaisant. On met Matic dans une position qui lui convient. Il peut orienter le jeu, il peut faire jouer devant, il a le jeu devant lui. Il n'est pas en mode, oui, je dois défendre, je dois faire le sale boulot, plus en même temps, je dois créer le jeu. Parce que devant lui, on lui met du Bourigeaud, on lui met du Blas, qui eux créent le jeu un peu pour lui. Lui, il a juste à se focus sur faire le lien entre l'attaque et la défense. Il n'a pas besoin de créer en plus le jeu, de faire encore plus qu'est-ce qu'il ne sait faire et qu'il fait très bien d'ailleurs. Donc déjà, on verra bien par rapport à la compo. Après, c'est vrai que. Contre Montpellier, on a vu que Yildirim en pointe, bon, quand il est seul en pointe, qu'il n'y a personne derrière lui pour bien assister, ce n'est pas non plus l'attaquant Tony Truant, et on verra bien si Terrier va revenir et comment il va revenir, ce qui va faire du bien à cette équipe rennaise, je pense. Mais contre Nantes, dans un derby, je pense que ça va jouer des deux côtés. Je pense que Rennes va se réveiller un peu, parce que forcément, voilà, c'est le derby, c'est Nantes en face. Donc je pense que ça va se réveiller, surtout que c'est en plus au Roazhon Park. Donc je pense que ouais, les attaquants rennais vont se réveiller un peu, mais on verra bien aussi ce que vont faire pendant Nantais, parce qu'eux aussi sont en forme, sont en jambes. Donc on verra bien, ça va être un match très animé et que je ne vais certainement pas manquer.
Du coup, on peut s'attendre à quoi comme composition, Maxime, puisque la dernière fois on avait voilà Yildirim en pointe, Salah, Dou et Blas derrière avec Bourigeaud, Matic un peu plus bas hein, dans ce 4-2-3-1 et en défense centrale, Truffert, Tête, Omari, Assignon et Mandanda au cage. Tu penses qu'on va se retrouver avec la même compo ou il y aura sans doute le retour de Goury, peut-être un Lefebvre dans la composition ou Santa Maria?
Je pense que déjà au niveau de la défense, ça va pas bouger. Défensivement, ça bouge pas trop niveau Rennes. Ils aiment leur petite défense à 4 avec les mêmes joueurs depuis le début de la saison. Ensuite, au milieu de terrain, il devrait y avoir un petit peu de mouvement, surtout aussi offensivement. Je verrais Matic titulaire avec Bourigeaud et qu'est-ce que je verrais autrement sur le terrain? Matic, Bourigeaud. Et le fait, je crois qu'il est blessé ce match-là.
Ok.
Je vois Blas sur le côté droit. Je vois Guiri en pointe. Salah sur le côté gauche. Et à la limite, soit un petit Désiré Doué, soit Santa Maria au milieu de terrain. Donc okay. Matic, Bourigeaud, Santa Maria, avec devant Guiri en pointe. Guiri en pointe, Salah à gauche et Blas à droite.
Ok. Ok. Nice. Bah, du coup, ça nous permet d'enchaîner sur l'équipe nantaise, hein, donc le rival, l'adversaire, le futur adversaire du Stade Rennais. Et c'est vrai que quand on parle d'attaquant côté nantais, bah, c'est déjà un peu plus, on va dire, sexy en termes de statistiques. On a un Mostafa Mohamed qui a 5 buts, un Moses Simon qui a 2 buts, Mollet, Ablin et Castelletto qui sont tous les trois à 1 but. Nantes est actuellement à 11 buts mis en Ligue 1. Lens, pour l'instant, qui a un parcours, on va dire, assez... j'ai pas envie de dire linéaire non plus, parce que ils ont compté quand même, ils ont compté voilà des matchs nuls et quelques défaites, notamment un nul contre Lille. Enfin, ils ont enchaîné une bonne période de nuls. Non, pas contre Lille, je raconte des bêtises. C'est Rennes qui a joué contre Lille. Non, Nantes, ils ont connu ouais ce gros voilà match nul contre Monaco et qu'ils étaient partis chercher, qui était assez impressionnant. Notamment contre aussi Marseille, puis ils gagnent la semaine dernière contre Lorient. À quoi on peut s'attendre de ce Nantes pour ce match qui vient, Steve, contre Rennes? Est-ce que ça va être la furia nantaise qui va se déverser sur Rennes?
Ça va faire plaisir à un très bon ami à moi, je vais dire du bien de cette équipe de Nantes. j'ai la Nantes aussi, hein. J'avais cassé du sucre sur Nantes, mais quand ça joue bien, il faut le dire aussi. Contre Lorient, ça a été assez impressionnant, cette équipe nantaise. On a vu qu'il y avait du caractère, on a vu que cette équipe savait jouer au ballon, et je pense que l'on voit enfin le travail et ce que veut faire Aristoui, je ne sais jamais comment on prononce son nom, pardon, le coach nantais. Ouais. Oui. On voit enfin où il veut en venir. Mostafa Mohamed qui se réveille enfin après sa saison quasi blanche la saison dernière, hein, parce que c'était pas
ouais, non plus il met 8 buts, il me semble. La saison dernière.
C'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, ouais, non, je suis j'ai beaucoup apprécié le match contre Lorient. Bon, c'était un peu différent contre Rennes, à Rennes, forcément, dans un derby. On va voir un peu qui a la plus grosse, entre guillemets, pour parler un peu vulgairement. Mais j'aime bien ce 4-4-2 qui est mis en place par Nantes. Ce 4-4-2 avec Augusto et qui révèle au milieu. Bon, c'est pas non plus le milieu créatif de l'année. Hein. C'est pas non plus ici que tout se fait. Mais ça reste costaud. Ça reste bien. Moses Simon qui... lui aussi reprend un peu du poil de la bête après une saison dernière pas non plus très très exceptionnelle. Dès qu'on est dans les cages, c'est assez plaisant, c'est assez fort sur sa ligne, ça parle bien sa défense. Il n'y a plus le Serrois Palois, hein, qui lui maintenant est sur le banc. Mais cette équipe nantaise fait assez plaisir à jouer, assez plaisir à voir jouer, pardon. Je pense que Nantes va facilement cette saison. Je les voyais un peu mal en début de saison après ces deux défaites contre Toulouse et contre Nantes. Mais dernièrement, après le match contre Nantes, on a vu un très gros caractère dans cette équipe nantaise. On a vu que les mecs, ils en voulaient. Ils voulaient jouer au ballon. Contre Marseille, bon, le match était un peu endormi. Mais contre Clermont aussi, on a vu que ces mecs-là veulent jouer au ballon, proposent du ballon. Et ça, c'est intéressant à voir. Donc, je pense que ce match contre Rennes va être intéressant et je vois un petit un match nul.
Ok, parce que moi ce qui m'impressionne un peu avec Nantes, hein, sur les derniers matchs que j'ai pu voir d'eux, c'est qu'ils ont cette capacité en fait, même si l'effectif change, surtout devant, à être toujours aussi performant. Pour vous dire, contre Monaco, ils jouaient à 3 devant avec Simon, Mostefa, Bamba. Le match suivant, quand il joue contre Marseille, cette fois, c'est Hudson qui est sur le banc à la place de Bamba. Il y a Pierre Gabriel qui est au milieu de terrain. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours Mostefa qui est là. Et encore, contre Clermont, il joue avec Simon, Ganago, Marquinhos et Mollet. Donc, il change un peu la formation en passant en 4-2-3-1. Et là, contre Nantes, il joue avec Mostefa, Ablin, Simon et Mollet à droite. Et là, c'était une sorte de 4-4-2. Donc, la formation change en fonction des matchs. Les joueurs offensifs, il y en a deux ou trois, enfin, pardon, un ou deux qui vont changer. Mais au final, ils arrivent quand même à marquer. Donc, est-ce que, le vrai problème de Nantes, ce serait pas ce problème défensif? Parce qu'ils ont pris quand même 11 buts, et ils en ont mis 11. Et au final, ils auraient peut-être l'une des attaques, en tout cas, les plus efficaces pour l'instant du championnat de France. T'en penses quoi, Maxime, toi?
Déjà, pour ce match face à Rennes, je ne sais pas si Abling pourra jouer parce que c'est vrai qu'il est prêté par Rennes à Nantes.
Mais
donc
c'est ça.
Ça, ça va être une question sur la question du dispositif. Parce que c'est vrai que sur le dernier match, il joue à deux devant avec Mohamed et Abling. Je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire face à Rennes. Et je vois mal Mohamed jouer avec Ganago en pointe. Donc peut-être que là, il se redirigerait plutôt sur une seule pointe avec des joueurs sur les côtés. Peuvent être Bamba, Marquinhos ou même Simon. Après, c'est sûr que défensivement, ils ont souvent eu du mal. Il y a Castelletto qui est là depuis longtemps. Le nouveau autrement qui est arrivé justement, Comer, j'ai pas assez vu jouer pour juger. Jean-Kévin Duverne, c'est un bon joueur. Il est arrivé il y a pas longtemps. Donc c'est vrai qu'il va falloir qu'il prenne ses marques lui aussi. Mais c'est vrai que ça marque beaucoup. Mais ça encaisse énormément aussi, on l'a vu aussi face à Lorient, parce que c'est vrai que oui, ils en ont mis 5, mais ils en ont aussi pris 3, donc c'est sûr que c'est à double tranchant. Nantes, c'est 11 buts marqués, 11 buts encaissés. Donc c'est sûr que ça marque, mais ça encaisse. Et à un moment, ça va devenir problématique, c'est sûr. Mais tant que ça marque plus que ça encaisse, il n'y a pas de problème.
Ouais, c'est
après,
ça, à l'allemande, quoi.
Il fait 3 matchs très satisfaisants.
Qui ça?
Comer, il joue contre Marseille, contre Clermont et contre Lorient. Et les trois matchs, il fait des très bons matchs. Hein.
Ouais,
contre Marseille.
On a vu qu'un sur les trois.
Contre Marseille, il est assez costaud. Bon, contre Clermont, j'ai vu quelques highlights, mais c'est pas non plus. Je pense que c'est pas non plus un plus mauvais match pour l'instant. Et contre Lorient, il marque. Il est costaud défensivement. Donc je pense que Comer, ça va lui prendre du temps forcément de se mettre dans cette équipe, hein, parce que ça, on rentre pas dans une nouvelle équipe en titulaire comme ça et tout de suite on s'impose, surtout pour remplacer Palois et Giroto. Mais je pense que ça va le faire. J'ai l'impression qu'il matche bien dans cette équipe et que cette défense avec Castello, je pense que ça va le faire. Ouais, Castelletto, pardon. Je pense que ça va le faire. Faut leur laisser le temps, mais on l'a vu qu'ils prennent certes 3 buts, mais sur les 11 buts encaissés, c'était tout en début de saison, en fait. Sur les 3 derniers matchs, ils prennent que 4 buts, en fait.
Ouais, c'est ça. Bah, après, ouais, ils en prennent 3 de Lorient. Et puis, la plupart des buts qu'ils prennent aussi, Nantes, c'est surtout des buts sur. Pas phase arrêtée, mais dans le jeu. Donc, c'est-à-dire que normalement, ils prennent des buts quand ils sont en place. C'est pas sur des contre-attaques. Hein. 10 buts qu'ils prennent, c'est sur vraiment du jeu ouvert. Donc, c'est peut-être l'une des problématiques pour le moment avec une défense qui est un peu nouvelle et les joueurs qui ont besoin de se connaître. Et peut-être qu'au fur et à mesure de la saison, ça va devenir de plus en plus solide. On verra bien. Du coup, vos pronos un peu pour ce match Rennes-Nantes. Je te lance, Max.
Ben moi, je dirais un but partout parce que Rennes a besoin de se lancer sur un énième match nul, un sixième.
C'est ça, au cas où on ne soit pas sûr, tu vois.
Et c'est surtout que, étant donné qu'il y a la Coupe d'Europe qui arrive la semaine prochaine, ils ne vont pas forcément vouloir se griller. Il y a le fait que Terrier revienne, qu'ils ont encore du mal à être mis en route et que, étant donné que Nantes est quand même sur une bonne dynamique, je vois Nantes poser des problèmes à Rennes qui n'est pas encore bien mise en place. Donc, je vois un but partout.
Ok. Et toi, Max ? Steve, pardon.
Moi, je dirais un match nul. Oui, comme je l'ai dit, mais un bon match nul, je vois un 2-2. Parce qu'on sait très bien que dans les derbies, en général, ça joue bien. Il y a beaucoup d'envie des deux côtés. Et ces deux équipes, somme toute, assez joueuses. Donc, je pense qu'un petit 2-2, ça serait pas déconnant.
Ok.
Par contre, je me risque pas sur les buteurs. Hein. J'ai pas.
on sait jamais. Buteurs, avec... moi, je vais les dire quand même, les buteurs. Je vais mouiller. Je vais dire Mollet. parce que c'est vrai que Mollet, il n'a pas forcément l'habitude de marquer et les défenseurs rennais vont plus se focaliser sur Mohamed. Okay. Et pour Rennes, je verrais un but de Blas en revanche par rapport à son ancien club.
Ok. Ouais, Mollet qui est déjà un but, Blas aussi. Vas-y. En plus, toi, t'as dit 2-2, Steve, hein, donc beaucoup de buteurs. Hein.
Ouais. Donc moi, côté René, je vois Salah marquer et un but du... Bon, allez. Un but de Matic, allez. Ce que j'en ai dit du bien tout à l'heure. Et côté Nantais, un but de Mostafa Mohamed et un but de... Bon, allez, j'ai dit un petit jeune côté René, je vais dire Merlin, côté Nantais.
Ok. Ah ouais, vous êtes chauffés, vous. Moi, je vais partir sur une victoire de Nantes, 2-1. Et je pense un but. Je pense qu'il y a un but qui va venir de la défense. Un bon petit corner des familles. Donc, je vais dire, allez, un Castelletto. Allez, on va se chauffer. Et but de Moïse. Pour côté Nantes et Rennes. Ouais, Rennes, je vais dire ça là, ouais. Ça là, on va dire ça là. Ouais, 2-1 Nantes. Ok, nickel. Bah, merci à vous, messieurs, pour ces deux matchs. On va revenir un peu sur l'actualité de la semaine maintenant. Donc, la semaine dernière, on n'a pas vraiment pu parler des équipes européennes, donc nos petits représentants français en Europe, et ça s'est plutôt bien passé. Parce qu'au final, en Ligue des Champions, on a le PSG qui bat Dortmund 2-0, Lens qui fait 1-1 à Séville, Rennes qui gagne 3-0 contre le Maccabi Haïfa, Toulouse qui fait 1-1 contre l'Union Saint-Gilloise à 10, Marseille qui va chercher un gros match nul à l'Ajax, 3-3, hein. On rappelle qu'ils n'avaient plus d'entraîneur à ce moment-là, enfin qu'ils venaient juste de le perdre. Et enfin, Lille qui gagne 2-0 contre l'Olympia Ljubljana. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite semaine de Ligue des Champions, étant donné qu'il y en a une qui arrive là la semaine prochaine? Pour cette première, qu'est-ce que vous avez pensé de nos clubs français? Allez, Max.
Bah, ils sont souvent décevants, on va dire, en Coupe d'Europe. Là, ils ont prouvé le contraire. C'est que, justement, contre les gros... Les petits clubs français ont réussi à faire du mal. Je pense notamment à Toulouse qui n'a pas du tout l'habitude de ces compétitions européennes, ou à Lens aussi qui allait chercher un gros match nul à Séville. Donc franchement très intéressant. Il va y avoir une nouvelle semaine qui arrive. Pour Lens, cette fois-ci, ça va être très compliqué, même si bon, c'est exceptionnel d'aller recevoir Arsenal à la maison. Pour Paris, il faut confirmer justement. Et pour les autres, il faut essayer d'aller chercher des points dans des plus petites compétitions, mais qui vont justement permettre de pouvoir aller plus loin et enchaîner les compétitions et les matchs pour eux.
Ouais, c'est ça, puisque la semaine prochaine, Lens reçoit Arsenal à la maison. Je pense que les supporters lensois doivent être aux anges, hein, ça va être incroyable comme match. Paris qui va à Newcastle, Lille qui va au KL Klaksvink. Ouais, Kyle Klaasvinks, tout ça. On a qui d'autre encore? On a...
Rennes qui reçoit Villarreal.
Rennes et reçoit Marseille, Villarreal, reçoit Marseille, Brighton et une autre petite Toulouse qui joue contre l'ASC. On doit s'attendre à quoi pour cette semaine européenne, Steve?
Tu veux quoi? Tu fais un petit prono entre guillemets par match ou
Non, juste... bah toi, tes sentiments... Ouais, un putain sentiment général. Est-ce que tu penses qu'on va quand même reproduire la performance de la semaine dernière? Puisque au final, la semaine dernière, on fait une belle performance en Europe. On est enfin, en tout cas, la nation qui a gagné le plus de points sur cette journée européenne. Donc, on a besoin de gratter des points. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va pouvoir se reproduire quand tu vois qu'un Marseille reçoit Brighton ou qu'un Rennes va jouer à Villarreal ou encore Lens à Arsenal? Tu penses que voilà, est-ce qu'il y a des scores qui peuvent être des petites surprises, ouais, qui peuvent avoir lieu?
Bah, malheureusement non, parce que Arsenal, on l'a vu, hein, ça joue encore très très bien, donc je pense que un Lens un peu en peine ne va pas résister au grand Arsenal. Mais le PSG contre Newcastle, oui, je pense qu'on va peut s'attendre encore à une petite démonstration de la part du PSG. L'OM contre Brighton, ouais, un match nul serait un très très bon résultat, pardon. Mais sinon, je me fais pas trop de soucis pour le TFC, pour Sadrene ou le LOSC. Je pense que ces trois équipes-là peuvent remporter leur match, pardon.
Ok, nickel. Et à dernière, une dernière petite actu du coup que j'ai vue cette semaine dont je voulais parler avec vous par rapport au droit TV. On en avait parlé un peu entre nous déjà. Là, on a appris cette semaine que Canal+ décidait de se retirer de cet appel d'offres, en tout cas en direct. Hein. Peut-être qu'ils vont se mettre en rediffuseur, ça on ne sait pas encore. Donc, ils étaient 8 candidats dont Canal. Maintenant, il n'y en aurait apparemment que 7. Apparemment, il y aura un accord secret entre la Ligue et Amazon. Est-ce que vous pensez toujours qu'on peut atteindre ce milliard? Est-ce que c'est positif? Est-ce que voir Canal partir, bah, c'est pas une mauvaise nouvelle pour la Ligue, puisque les autres vont se dire, bah, on peut mettre moins d'argent, l'un des gros concurrents n'est pas là. C'est quoi un peu rapidement vos avis sur la question? On va commencer par toi, Max.
Bah, je pense que Canal, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ne sont pas forcément attirés par la Ligue 1 pour différentes raisons. Parce que c'est vrai que, bon, petit différent entre la LFP et Canal, ça peut se comprendre. Donc, est-ce qu'on va atteindre le milliard? Pour moi, non. Parce que c'est vrai que les joueurs majeurs sont quand même partis du championnat de France. Il y a des joueurs qui sont arrivés, mais ça fait, entre guillemets, moins rêver. Et les gens du monde entier vont moins regarder cette Ligue 1 quand même. Donc, actuellement, c'est sur Amazon. Je vois pas pourquoi il y aurait forcément de changement. Ils vont potentiellement remettre la même somme. Je vois pas forcément de concurrents remettre des sommes assez faramineuses pour la Ligue 1 pour les années à venir. Donc, pour moi, ça va se stabiliser, on va dire, pour les années à venir.
Et toi, Steve, tu t'attends à quoi? Pareil, retour d'Amazon classique.
Ouais, je pense qu'Amazon va continuer. Je pense qu'Amazon sera la future. On sait très bien que les GAFAM commencent à investir massivement dans le sport. Donc, Google, Amazon, Facebook, etc. Ils commencent à investir beaucoup dans le sport. On le voit avec Amazon en France. Il y a peut-être Dazen qui pourrait proposer une offre, mais je n'y crois pas trop à l'heure qu'il est. On a ce fantasme en France du milliard d'euros de droits TV, mais c'est un fantasme, hein, comme je viens de le dire. Je pense qu'on n'a pas réussi à atteindre ça avec Neymar, Messi, Mbappé, avec le PSG, Stras et Payet. Je pense pas qu'on va l'avoir avec Bourigeaud, Blas et Aubameyang.
Ah bon, tu penses que non, un petit milliard là sur un petit, je sais pas, un petit Salah ou un petit
Brest champion de
David,
France, on a
non?
le milliard.
Non? Moi, je vois David,
Brest
je mets un
champion de France, on a
milliard.
le milliard.
Moi,
Franchement,
vrai
pour
champion de
moi,
France, milliard.
un Clermont-Metz, moi je le mets le milliard.
Ah, vous êtes mauvais. Bon, dans tous les cas, merci les gars de m'avoir accompagné aujourd'hui hein, pour parler de ces deux prochains matchs. Merci à vous qui avez écouté cet épisode. On vous souhaite une très bonne journée de Ligue 1 en espérant que nos pronos vous ont été utiles. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.